Alors, le cours d'aujourd'hui, nous continuons avec le prophète Isaïe, donc pour ce cours d'Ancien Testament niveau 2. Lors du cours précédent, nous étions entrés dans le livre du prophète Isaïe et nous avions vu en introduction qui était le prophète, de quelle manière sentant sa mission prophétique et plus généralement la mission de tous les prophètes d'Israël, l'investiture de celui qui est choisi par Dieu pour porter le message prophétique. Nous avions vu ces différents points, avec évidemment au centre la grande caractéristique du message prophétique qui est de rappeler le peuple à l'alliance avec son Dieu, et de ce fait, l'envoi du prophète par Dieu consiste en une annonce des conséquences de l'infidélité à cette alliance. Ce message prophétique contient vraiment un certain nombre de très grandes exigences. Et l'exposé des conséquences est parfois très rude. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup plus dans le livre d'Isaïe, que l'on nomme souvent l'Évangile avant l'Évangile, je l'avais déjà dit. Et nous avions vu que l'investiture de Yeshayahou, c'est son nom hébreu, fils d'Amots, Amots, c'est pas Amos le prophète, hein. Amots, c'est donc le père d'Isaïe. Nous avions vu que son investiture au chapitre 6 se fait dans le cadre de la grande vision du trône divin et par la purification et l'envoi de celui que l'on appelle le prince des prophètes. Cet envoi nous conduisit presque immédiatement au chapitre 7 avec l'annonce du signe de l'Emmanuel, la prophétie de l'Emmanuel, Immanuel en hébreu, Dieu avec nous, prophétie qui est centrale dans le livre d'Isaïe. Parce que cette prophétie est une véritable annonce du Christ, la tradition chrétienne ne s'y est pas trompée. Elle a été reçue unanimement et à bon droit comme une annonce du Christ, du Messie qui devait venir. Et cette prophétie va nous conduire aux quatre champs du serviteur, et en particulier celui du serviteur souffrant, que nous trouverons au chapitre 52 et 53. Mais je pense qu'auparavant, il faut rappeler un certain nombre d'éléments quant au plan du livre d'Isaïe. Alors bien sûr, il est tout à fait indispensable de lire intégralement le livre d'Isaïe, mais il est tout aussi indispensable de rappeler un certain nombre d'éléments quant à son plan, parce que ce livre est d'une très grande richesse. Beaucoup de choses sont évoquées dans la prophétie d'Isaïe. Il y a en particulier des pièces d'une très très grande beauté. Il y a un vocabulaire tout à fait particulier également. Et il ne faut pas se contenter de survoler le livre et de repérer des éléments de son plan, mais il faut entrer dans la lecture intégrale de cette prophétie du prince des prophètes. Alors, bon, vous avez à votre disposition, je l'ai rappelé dans la bibliographie, vous avez à votre disposition des bibles d'études, avec un apparat critique assez développé et qui vous donne des notes qui sont instructives pour la compréhension de la parole du prophète. Mais vraiment, nous sommes en présence du dévoilement de la figure du Messie. C'est vraiment ça la grande caractéristique pour nous, chrétiens orthodoxes, pour nous de ce livre d'Isaïe. Dévoilement de la figure du Messie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il est utilisé le mot de vision en tête de certains chapitres. La vision dont il s'agit ici, c'est le synonyme de révélation. Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, c'est révélation à Isaïe, fils d'Amoz, parce que, évidemment, le prophète a la vision qui lui est donnée par Dieu. Il ne la tient pas de lui-même. C'est Dieu qui lui octroie. Alors, on pourrait considérer que ce livre se divise en deux grandes parties. La première qui va du chapitre 1 au chapitre 39, et la seconde qui va du chapitre 40 au chapitre 46. La seconde, on y reviendra tout à l'heure, que l'on peut ranger sous le titre de « Livre de la consolation ». C'est utilisé traditionnellement, c'est utilisé par un grand nombre d'exégètes de la prophétie d'Isaïe, et je crois que c'est tout à fait justifié. Et on le verra d'ailleurs par le changement de vocabulaire qu'il y a entre la première partie et la seconde. Notons également que une partie de l'exégèse actuelle fait une tripartition du texte. Mais considérons que dans ces deux grands ensembles, il y a nombre de subdivisions, bien sûr. Donc tout n'est pas si simple pour considérer ce texte. Le premier grand ensemble va donc du premier chapitre, ainsi que je l'ai dit, au chapitre 39. Et là, il s'agit essentiellement de prophéties concernant Israël et les nations. Ces prophéties sont données, historiquement parlant, avant la captivité babylonienne. Et il y a également des prophéties concernant les promesses messianiques. Donc dans cet ensemble de 39 chapitres, on peut considérer quatre groupes de prophéties qui sont historiquement datables sous les règnes d'Ozias et de Yotam. Parce que je rappelle que le livre d'Isaïe s'ouvre par cette mention « Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias. » Donc, il prophétise sous ces quatre rois, et dans la première partie, les 39 premiers chapitres, Ces prophéties sont données historiquement sous les règnes des deux premiers rois de Juda concernés, Ozias et Yotam. Donc, des chapitres 1 à 6, pardon. C'est la première partie, il faut que je sois plus clair. C'est la première partie. Ensuite, chapitre 6. 7 à 12, c'est des prophéties qui sont données au temps du roi Akaz. Et ensuite, ça sera sous le temps de Ézéchias. Voilà, donc 1 à 39, chapitre, prophétie donnée, historiquement parlant, sous le règne de ces quatre rois, et de 1 à 39, une subdivision en quatre catégories de prophéties. Qu'est-ce qu'on peut retenir au moins de cet ensemble? Le prophète exhorte, accuse, menace, encourage, et souvent avec des images très fortes, puisque ce qui est visé, c'est les péchés de Juda, leur punition, l'infidélité d'Israël, mais également, dans tout cet ensemble, la purification d'Israël, la vision d'Israël comme vigne du Seigneur et les annonces messianiques. Tout ça est entremêlé avec un certain nombre de jugements que Dieu porte contre Juda, qui sont concomitants avec les guerres qui s'annoncent, avec l'annonce de l'Immanuel. Bon, bref, il faut démêler tout ça, voir un petit peu plus clair dans tout cet ensemble foisonnant que nous livre la prophétie d'Isaïe. Je retiendrai particulièrement le chapitre 5 avec cette description de la vigne, la parabole de la vigne, Israël comparé à une vigne, plantée et cultivée par Dieu avec le plus grand soin, mais cette parabole résume l'histoire même du peuple de Dieu avec son inscription dans l'Alliance, son adoption par Dieu qui en prend soin comme un père prend soin d'un fils, et aussi son infidélité, donc tous les malheurs qui vont s'abattre sur lui à cause de son infidélité. Cette thématique de la vigne reviendra plus loin dans le livre d'Isaïe, et même cette thématique de la vigne sera reprise dans le Nouveau Testament, en particulier avec la parabole des vignerons homicides qui tuent les serviteurs envoyés par le maître et qui, même s'emparent de l'héritier, veulent le tuer. Donc, c'est à mettre en rapport avec la parabole de la vigne telle que nous le trouvons dans le livre d'Isaïe. Les prophéties, donc au jour d'Akaz, le roi de Juda, sont elles-mêmes au nombre de quatre. Elles se terminent par une très belle action de grâce qui est un véritable chant de délivrance. Et donc les prophéties au jour d'Akaz, roi de Juda, donc nous mènent, nous conduisent en leur centre, c'est-à-dire la grande prophétie de l'Immanuel dont nous avons déjà parlé. Donc j'en rappellerai l'essentiel. Le prophète dénonce l'incrédulité du roi Akaz, le roi Akaz donc qui, craignant l'invasion de la Syrie et de la Samarie, va chercher une alliance, et il va songer à une alliance avec le roi Tiglath-Pharassar, le roi assyrien, et le prophète va l'exhorter fermement à ne mettre que sa confiance en Dieu, à se laisser guider par lui. Et comme le roi Akaz ne va pas écouter le prophète, je rappelle que Isaïe, nous le savons, était dans l'entourage du roi, donc occupait une position éminente dans le royaume de Juda en ce temps-là. Et comme Akaz ne va rien entendre, eh bien, Isaïe va lui dire « Le Seigneur fera venir sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis qu'Éphraïm s'est détaché de Juda. » Et comme pour prouver à Akaz que Juda peut se reposer sur le Seigneur et seulement sur le Seigneur pour sa défense et non pas en comptant sur le secours d'autres régnants, il dit au roi qu'il peut demander un signe pour cette protection. Là aussi, refus d'Akaz qui dit le roi, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. C'est intéressant comme réponse, mais néanmoins, dans la suite du texte, on voit que le signe, malgré le refus du roi de demander ce signe au Seigneur, eh bien, dans la suite du texte, on va voir que ce signe va lui être donné sous la forme de l'annonce de l'Immanuel. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Donc c'est chapitre 7, verset 14. Et ce signe, d'ailleurs, est accompagné de l'assurance qu'en très peu d'années, Judas sera délivré de la Syrie et du royaume d'Israël. Mais que néanmoins, malgré cette délivrance, il sera l'objet de toute l'attention, entre guillemets, de l'Assyrien pour avoir refusé de ne compter que sur Dieu. Donc, on peut à bon droit voir que le grand signe de la naissance virginale de l'Immanuel indique très nettement, très clairement, la divinité du Messie dont le Père est au ciel. Le fils de la Vierge qui enfante l'Immanuel, il est appelé par ce nom, c'est-à-dire Dieu avec nous. Un nom significatif, en vérité, si on réfléchit bien, qui nous fait connaître la nature du Messie. Parce que l'Immanuel, c'est le Messie qui devait venir, lequel Messie va être connu aussi sous la forme du Messie glorieux et du Messie souffrant. Et la nature de ce Messie, c'est Dieu lui-même qui vient au milieu des hommes. Donc, plus tard, nous aurons les définitions, beaucoup plus tard par rapport à Isaïe, nous aurons les définitions conciliaires sur les deux natures du Christ, mais nous voyons bien, par cette annonce de l'Immanuel, que déjà, la divinité, l'affirmation en filigrane de la divinité et de l'humanité de celui qui devait venir. C'est pour ça qu'on peut considérer également presque comme un commentaire l'un des versets de l'évangile de Jean, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est vraiment en lien direct avec la prophétie de l'Immanuel telle que nous la trouvons chez Isaïe. Du reste, d'ailleurs, Isaïe voit comme en esprit l'enfant déjà né au chapitre 9, verset 6. L'enfant qui avait été annoncé au chapitre 7, verset 14, et dont la naissance virginale nous manifeste clairement la nature divine. Que dit ce verset ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses épaules. On proclamera, j'avais cité la dernière fois ces versets, on proclamera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, il aura une souveraineté étendue et une paix sans fin. Donc, la nature divine de l'enfant apparaît très clairement au travers ses nominations. Admirable conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. La Septante ajoute, pour ce qui la concerne, Ange du Grand Conseil. Ce sont là des noms divins, en fait. Ce sont là des noms divins. Alors Isaïe va apporter une parole d'espérance parce que, au milieu d'un monde très troublé, plein de violence due aux ravages et au carnage de la guerre, des guerres qui vont se succéder, des guerres et des conquêtes qui vont se succéder, eh bien, le Messie va apparaître comme une grande lumière pour le peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi, est-il dit au chapitre 9, verset 1, lorsqu'il va faire référence à l'enfant qui est déjà né. Il a vu en esprit l'enfant déjà né. Mais malgré tout, la situation dans laquelle tout cela se passe est une situation terrible. La prise des territoires de Nephtali et de Zabulon, du royaume du Nord, eh bien malgré ça, les péchés continuent et Israël est comme emporté par son orgueil et n'entre pas dans le repentir. Il y a des faux prophètes qui égarent le peuple par leurs mensonges en approuvant les mauvaises actions des dirigeants du peuple, en approuvant la pratique généralisée de l'injustice contre laquelle Isaïe va s'élever avec vraiment véhémence. Il y a des luttes fratricides qui existent partout. Vraiment, le tableau est apocalyptique. Il y a l'oppression des petits, des pauvres. Il y a les juges eux-mêmes qui abusent des pouvoirs et qui sont du côté de ceux qui oppressent les petits et les pauvres. Donc pour toutes ces raisons, Dieu va exercer son jugement contre Israël, et il le fait d'une manière que nous retrouvons souvent dans la prophétie, il le fait en utilisant les nations étrangères. Les nations étrangères vont être l'instrument du châtiment de Dieu, pour punir le peuple qui est infidèle à l'alliance qu'il avait contractée avec son Seigneur. Et donc ce sera la Syrie, l'Égypte, la Syrie, les Philistins. Mais, parole d'espérance, là aussi, cette punition, ce jugement ne sera pas éternel. Viendra un jour, ce sera le jour du Seigneur, où la punition cessera. Et la leçon qu'il faut en retirer, justement, en lisant ce que nous dit Isaïe, c'est que ce jugement, il a deux aspects. Il est punition, jugement pour les incrédules, pour les infidèles à l'Alliance, mais il est en même temps repentance, délivrance pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. C'est là les deux caractéristiques de ce jour du Seigneur de ces deux significations du jugement qui intervient au jour du Seigneur, c'est-à-dire quand le royaume glorieux sera institué. S'ensuit donc dans une dizaine de chapitres toute une série de jugements sur les nations, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, je vous invite à les lire, hein, il y a toute une catégorie de prophéties qui se sont bel et bien réalisées d'ailleurs sur Babylone, contre les Philistins, sur Moab, sur la Syrie, sur l'Éthiopie, sur l'Égypte. La prophétie sur la prise de Babylone, la prophétie contre Édom et l'Arabie, la prophétie sur Tyr, etc., etc. Donc il faut vraiment lire l'ensemble du livre complètement, c'est absolument indispensable, et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'aider des livres, des commentaires que j'ai mentionnés dans la bibliographie, et au moins d'une bonne Bible d'étude qui a un appareil critique de notes qui vous guideront dans cette lecture intégrale du livre d'Isaïe. Notons que sur la figure de l'Immanuel, donc le Messie, le chapitre 7 nous parle du Messie qui naît d'une vierge. Hein ? Donc c'est le Messie qui naîtra de la Vierge. Le chapitre 9 nous le fait voir comme déjà né. Et le chapitre 11 comme régnant glorieusement. Et les chapitres 52 et 53, nous le dépeindrons sous la figure éminemment christique du serviteur souffrant. Des chapitres 24 à 33, nous voyons, nous sommes dans une vision vraiment très sombre d'une terre dévastée. Une terre dévastée, non seulement de la terre d'Israël, mais de partout. Nous sommes là vraiment dans une perspective d'une humanité désagrégée, mais d'une humanité qui va être libérée. Ça sera la part des chapitres 34 à 35. Tout ça, ça concerne ce que l'on a appelé l'Apocalypse d'Isaïe. Et dans cet ensemble, il y a deux cantiques, le cantique des rachetés d'Israël, au chapitre 25 et au chapitre 26, ainsi qu'au chapitre 27. Dans les deux cas, la justice de Dieu est célébrée dans ces cantiques. Elle est célébrée pour ses hauts faits. Le bras puissant de Dieu et ses hauts faits qui a abattu les ennemis orgueilleux de son peuple. Pour les hauts faits de Dieu, qui aplanit les sentiers sur les pas des justes, et pour les hauts faits de Dieu, de ce même Dieu qui anéantit les oppresseurs de son peuple. Ces cantiques également, ils louent la fidélité de Dieu. Très important, ça, parce que c'est un thème qui revient sans arrêt, l'opposition entre l'infidélité du peuple à l'Alliance et les conséquences dramatiques qui sont liées à cette infidélité du peuple à l'Alliance, mais qui est mise en regard avec la fidélité de Dieu. Sa main puissante qui demeure à Sion et à Jérusalem et sur le pays de Juda. Le salut qui ne manquera pas d'arriver et avec lui la sécurité et la paix. Le fait que Dieu est sans variation dans sa fidélité, qu'il est un rocher très sûr pour son peuple. Et le fait qu'il lui permet d'accomplir sa volonté. Le fait qu'il n'abandonne jamais son peuple, même s'il le soumet à jugement et à punition à cause de l'infidélité, eh bien, il ne l'abandonne jamais. Il revient toujours vers son peuple et il veut le restaurer, il veut le rappeler à la fidélité, à l'alliance, qui finalement se présente comme une alliance nuptiale. Hein. L'alliance entre Dieu et Israël, son modèle, est éminemment nuptiale. Donc l'infidélité, c'est l'adultère. Il y a un synonyme entre ces deux mots, infidélité et adultère. C'est l'infidélité, c'est un adultère qui est commis par rapport à l'alliance parce que Israël est vu comme l'épouse de Dieu, exactement comme plus tard dans le Nouveau Testament, l'Église sera l'épouse du Christ. C'est toujours la thématique nuptiale qui est à l'œuvre là. Et au chapitre 27, à nouveau apparaît ce que nous avions vu au chapitre 5, c'est-à-dire le thème de la vigne. Mais cette fois, Dieu se réjouira en face de sa vigne. Dieu se réjouira et célébrera la prospérité de cette vigne. Ensuite, entre les chapitres 28 et 33, eh bien, nous nous retrouvons un balancement qui est vraiment continuel entre le bonheur et le malheur. À nouveau, malédiction sur Jérusalem et promesse pour Israël, annonce de la punition de Juda et promesse pour les jours à venir, le jugement des Assyriens et règne de paix et de justice, délivrance de Jérusalem, prophétie sur Édom et bénédiction future d'Israël. Invasion de Juda par Sénéchérib, délivrance d'Ézéchias, le quatrième roi de Juda, et délivrance donc d'Ézéchias et de Juda, ainsi de suite, jusqu'au chapitre 39. Donc ce balancement continuel que nous retrouvons dans ces chapitres. Alors, il est à noter quelque chose en ce qui concerne justement le roi de Juda. Au chapitre 36 et 37 qui relate le siège de Jérusalem et la délivrance de la ville. Il y a l'invasion de Sénéchérib qui est le roi d'Assyrie. Donc c'est la confirmation de la prophétie qui était donnée déjà au chapitre 7 et qui veut que Sénéchérib est l'instrument par lequel Dieu punit Juda, frappera Juda. Mais le roi s'humilie cette fois-ci devant Dieu et il va consulter Isaïe. Et alors, suite à cette humiliation que fait le roi devant son Seigneur, eh bien, Isaïe va promettre la levée du siège de Jérusalem. Il se trouve que Sennachérib, le roi de la Syrie, apprend que le roi d'Éthiopie se met en guerre contre la Syrie. C'est vraiment toute la région qui est conflictuelle. Et donc, il s'apprête à lever le siège, il lève le siège de Jérusalem quand il apprend cette nouvelle, et il repart dans son pays. Il rentre à Ninive, d'ailleurs, où il sera assassiné. Il y a au chapitre 38 aussi, comme fait marquant, la maladie et la guérison d'Ézéchias avec le signe du soleil qui reculera son ombre de 10 degrés. Et il y a dans ce chapitre un cantique d'action de grâce d'Ézéchias, à la fois une plainte du roi pour sa maladie, mais également une reconnaissance au Seigneur. Et puis, il y a une annonce malheureuse qui est l'annonce de la déportation du peuple du royaume de Juda à Babylone. Voilà, c'est dans toute cette partie sont entremêlés, enchevêtrés tous ces thèmes sur fond de lourdes menaces qui s'expriment, qui sont exécutées, mais aussi d'appel à l'espérance sur fond de jugement et de redressement. Donc, il y a ce balancement, je dirais, pratiquement incessant dans toute cette partie. Les choses vont changer avec le chapitre 40, avec le début du livre de la consolation d'Israël. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel, le Seigneur, le salaire de tous ses péchés. Et là, chez le chapitre 40, eh bien, il s'ouvre sur une parole significative au verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, non seulement la figure du Messie, la figure éminemment christique du Messie est présente dans le livre d'Isaïe, mais nous avons également là la figure du Baptiste. C'est très exactement repris au début de l'Évangile dans le ministère de Jean-Baptiste. Ces paroles sont reprises, préparez un chemin au Seigneur, faites une route bien droite pour notre Dieu. Donc, ce livre de la consolation s'annonce sous des temps meilleurs. Le temps de la délivrance est proche, puisque Israël retourne à Dieu avec un cœur repentant. Mais le salut ne se fera intégralement, pleinement, que par la venue glorieuse du Seigneur pour régner au milieu de son peuple. C'est pour ça que la voix qui parle dans le désert, qui crie dans le désert, est là. Cette voix, elle proclame le rétablissement de la justice. Elle proclame que les oppresseurs du peuple seront abattus et humiliés, et que les humbles seront élevés et restaurés. C'est dans tout ce chapitre 40. Des chapitres 41 à 45, nous voyons, en particulier dans le chapitre 45, nous voyons dans le groupe de ces chapitres, donc c'est le thème de la rédemption, et dans le chapitre 45, nous voyons apparaître la figure du roi des Perses, Cyrus, qui est libérateur. Nous savons que Cyrus va autoriser le retour des Hébreux dans leur terre et autoriser la construction du deuxième temple. Donc Dieu, par son œuvre, va susciter un héros qui va parcourir la terre, c'est-à-dire bon, toute la région en fait, va détruire les ennemis d'Israël, et en particulier le royaume d'Assyrie, et va permettre le retour de l'exil. Et c'est donc à partir du chapitre 42 qu'est introduit la figure du serviteur, la nouvelle figure du serviteur de Dieu. Et sous cette figure du serviteur, telle qu'elle va se déployer dans le chapitre 42, 43, 49, 50, 52, 53, eh bien, va se dévoiler progressivement la figure du Messie promis à Israël. Et ceci est à mettre directement en lien avec l'annonce de l'Immanuel dans le chapitre 7, déjà cité. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce serviteur? Comment est-il dépeint? Il est, bien sûr, lié au peuple d'Israël. Il a sur lui l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il rétablit, ou rétablira plus exactement, la justice parmi les nations. Pas d'ailleurs d'une manière violente, ou par les armes, mais par la persuasion, la douceur, la bienveillance. Douceur et bienveillance, ce sont aussi des noms divins, je le rappelle. Quand, au début de la divine liturgie, nous disons « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, bienveillance parmi les hommes », nous invoquons Dieu sous la figure d'un de ses attributs. La bienveillance appartient à Dieu en majesté. Et ce serviteur, il est destiné à être serviteur de la nouvelle alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et il est en même temps destiné à être lumière pour les nations. Donc, nous voyons, si nous rapprochons la figure du Christ, qui viendra 700 ans plus tard, au moins, plus de 700 ans plus tard, et l'annonce prophétique d'Isaïe, combien cette annonce est précise, en fait. Combien elle est la seule, d'ailleurs, de l'Ancien Testament à être aussi précise. Dieu n'oublie pas son peuple dans cette section de chapitre entre 40 et 40, fin du chapitre 44. Il nous a rappelé que bien que Israël soit resté sourd à cette lumière divine, bien qu'il reste aveugle au dessein de Dieu, le prophète insiste sur le fait que Dieu n'oublie pas son peuple. Et d'ailleurs, à cette occasion, et à plusieurs reprises dans le livre d'Isaïe, Dieu est nommé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est un nom qui parcourt le livre d'Isaïe, et il est même nommé dans la grandiose vision du chapitre 6, le trois fois saint. Le trois fois saint, référence à la Sainte Trinité, bien sûr, pour la tradition chrétienne, puisque quand Isaïe est mis en présence du trône divin, il entend ce chant ineffable du Trisagion. Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, Seigneur Dieu des armées célestes. Bon. Donc, sont décrits l'œuvre que Dieu accomplit, sont décrites l'œuvre que Dieu accomplit en faveur de son peuple, malgré que son peuple soit aveugle à ses desseins, malgré qu'il reste sourd à sa parole, Dieu ne l'abandonne pas et œuvre en faveur de sa délivrance. Il ne l'abandonne pas, il le fortifie, il le soutient et il le fortifie. Même, et c'est évidemment paradoxal, à un premier niveau de lecture, même lorsqu'il le châtie. Il fait du roi perse l'un de ses instruments par lequel il va permettre le retour de l'exil. Il fait occuper l'Égypte, l'Éthiopie, le royaume de Saba, à la place du pays d'Israël. Il pardonne sans cesse quand il va vers son peuple, il annonce ce pardon, il pardonne les péchés de son peuple, si graves soient-ils. Eh bien, il les pardonne dès que son peuple manifeste sa volonté de retourner vers lui, parce que il est le seul qui pardonne et il est le seul sauveur. Seul Dieu, d'ailleurs, peut pardonner les péchés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous confessons devant le Christ. Seul le Christ pardonne les péchés, puisque le Christ est Dieu. Il pardonne les péchés. Ce n'est pas le prêtre qui est la source du pardon, bien sûr, dans l'acte sacramentel de la confession. C'est le Christ. Le prêtre est le témoin de ce pardon que seul le Christ peut donner. Et il rassemble les dispersés d'Israël. Ça, c'est un signe éminemment messianique, un signe des derniers temps, un signe que le royaume messianique advient, c'est le rassemblement des dispersés d'Israël. Il restaure Israël et il restaure le cœur d'Israël qui est Jérusalem avec son temple, qui est le centre même du culte d'Israël. Hein, bien sûr, dans le pays, nous savons qu'il y a des synagogues un peu partout, et même d'ailleurs dans l'enceinte du temple, il y a une synagogue et où le grand prêtre vient lire l'Écriture sainte. Eh bien, ces synagogues sont des salles de prière et on y prie, on y lit l'Écriture et on la commente. Mais le centre du culte, bien sûr, c'est le temple. Tout cela, donc, est appelé à la restauration dans la prophétie d'Israël après... d'Isaïe, pardon, après le retour d'Israël de l'exil. Il donne l'Esprit Saint, il donne la joie à son peuple. Et donc, il sollicite également en retour le témoignage d'Israël qui veut que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Et il y a beaucoup d'affirmations de ce genre dans la prophétie d'Isaïe. qui reviennent, notamment tous les discours contre les idoles qui, finalement, ne sont qu'un pur néant, ne peuvent rien, ne parlent pas, rien ne sort de leur bouche, et les idoles qui ne sont qu'illusions. Alors, bien sûr, l'idolâtrie, nous le savons, elle a plusieurs niveaux de manifestation. L'idolâtrie, elle peut être grossière, comme l'adoration de statues, de choses comme ça. Mais l'idolâtrie, elle prend aussi des formes beaucoup plus subtiles. Mais elle est, dans tous les cas, une négation de Dieu. Et l'idolâtrie, elle arrête le regard. Elle interdit au regard de l'homme d'aller au-delà de ce qui nous est donné visiblement. Elle interdit au regard de l'homme de monter plus haut, de s'élever vers l'invisible, vers donc ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Parce que comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous savons que ce qui est visible procède des choses invisibles. Bon. Donc, il y a, à côté des affirmations de la sainteté de Dieu, qui sont récurrentes dans le livre d'Isaïe, il y a aussi des condamnations très fermes de toute forme d'idolâtrie. Alors, quelle est l'œuvre du serviteur après donc ce retour de l'exil? Quelle est l'œuvre accomplie? Revenons sur ce qu'Isaïe nous dit de l'œuvre de ce serviteur et qui constitue une nouvelle section des prophéties entre le chapitre 49 et le chapitre 55. Israël est ramené de l'exil par Cyrus, qui est qualifié de oint du Seigneur, mais pour autant, ce retour, il ne faut pas le confondre avec une délivrance définitive. Si le roi perse Cyrus est l'instrument, je dirais, d'une première délivrance, la grande délivrance, la délivrance définitive, c'est celle du Messie. Autrement dit, celui qui est loin du Seigneur, Cyrus, eh bien, ne fait qu'annoncer l'annonce du vrai Messie. Le vrai Messie, c'est celui qui doit venir. Et ce salut, nous dit Isaïe, eh bien, il est pour Israël, mais il s'étendra à la terre tout entière, comme l'annoncent les chapitres suivants, le chapitre 49. Alors, le chapitre 49, d'ailleurs, manifeste que ce salut, il sera général, puisqu'il commence par ces mots, « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, etc. » Non, ou plutôt, je cite quand même le verset 2, « Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë. » Bon, donc, « Il, écoutez-moi », bon, c'est une désignation symbolique de l'ensemble des peuples païens, là, on n'est plus seulement en présence du salut d'Israël, mais c'est le salut général. Hein. Ça fait écho à la désolation générale que nous avions trouvée dans un groupe de chapitres précédents. Désolation qui concernait Israël, mais quasiment toute la terre habitée également. Et là, donc, le serviteur dont il est ici question, qui s'adresse aux îles qui sont le symbole des peuples païens, eh bien, c'est le germe du Seigneur, c'est le grand roi d'Israël et du monde, et c'est l'Immanuel du chapitre 7, précisément. Parce qu'il faut faire le lien entre le chapitre 7 et la figure du serviteur, telle que nous la trouvons à partir du chapitre 42 jusqu'au chapitre 53. Donc cet Immanuel, il est appelé par le Seigneur, bien sûr. Il est revêtu, ce serviteur Immanuel est revêtu de la puissance et de la protection de Dieu. Il va proclamer des paroles pénétrantes, qui sont comme des flèches, qui sont comme une épée tranchante. Et il est celui dont procédera l'Israël spirituel, une espèce de second Jacob, qui sera nommé Israël après le combat avec l'ange. Et saint Paul, dans la première aux Corinthiens, le décrira comme le second Adam. Il sera donc aussi ce serviteur, le second David, celui du règne messianique, descendant de David, et second David, mais celui du règne messianique. On se référera, pour ce qui concerne cet aspect des choses, à Jérémie 30 verset 9, Ézéchiel 24, verset 25. Il sera, ce serviteur, d'abord repoussé par son peuple, comme le sera d'ailleurs le Christ. Vous voyez, il y a toujours ce parallèle à avoir entre le serviteur d'Isaïe, qui est une figure éminemment christique, repoussé par son peuple. Sa mission sera rejetée, son enseignement sera massivement rejeté, sauf par le reste, le petit reste. Mais il se confiera toujours en Dieu, et il accomplira, il achèvera l'œuvre de rédemption des hommes qui fait partie du dessein de Dieu en faveur de ces hommes. Donc, en d'autres termes, son œuvre de salut aura une dimension universelle. Et il fera connaître, de ce fait, le salut de Dieu, non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Et pour ce faire, eh bien, Dieu exaucera celui qui a été méprisé, ce serviteur qui a été méprisé. Et les grands de la terre, nous dit Isaïe lui-même, les grands de la terre se tourneront vers lui et l'adoreront. Donc il sera lui-même la nouvelle alliance contractée entre Dieu son peuple, puisque le sang qu'il répandra sera le sang précisément qui nourra cette nouvelle alliance, puisque l'alliance est toujours scellée par le sang des victimes animales après l'alliance au Sinaï dans l'Ancien Testament, et le sang du sacrifice unique de Jésus-Christ, qui est le sacrifice salvateur par excellence. Alors, au chapitre 50 et 52, et particulièrement de 52, 12 à 53, 13, il y a l'évocation de cette figure du serviteur sous la forme du serviteur souffrant. Et on peut dire que là, c'est le point culminant de la prophétie d'Isaïe, et même peut-être de l'Ancien Testament en général, parce que vraiment là, on arrive presque à l'incarnation. Et en tout cas, cette figure du serviteur souffrant, point n'est besoin de dire qu'elle est éminemment christique. Elle est décrite sous la figure du serviteur est décrite sous la double forme de l'abaissement et de l'élévation. Et dans le Nouveau Testament, il sera fait référence souvent à cette figure du serviteur souffrant. Et pour toute la tradition patristique, absolument unanime, cette prophétie d'Isaïe, c'est la description de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Je termine en citant d'ailleurs quelques témoignages patristiques à ce propos, et qui est le point culminant de la prophétie d'Isaïe, et qui fait que vraiment le livre d'Isaïe est l'évangile avant l'évangile. Et on peut dire que Isaïe a vu en esprit le Christ lui-même. Alors, Clément d'Alexandrie, par exemple, dira dans l'Épître aux Corinthiens, le Christ appartient à ceux qui sont humbles de cœur, non à ceux qui s'élèvent au-dessus de son troupeau. Le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas venu avec le train de la fierté et de l'orgueil, et pourtant il le pouvait, mais avec l'humilité du cœur, selon que l'Esprit Saint lui avait l'avait déclaré de lui. Et ça, c'est une caractéristique du serviteur tel qu'il est décrit dans la prophétie d'Isaïe. Ensuite, il cite intégralement Isaïe 53, 1 à 12, et il poursuit, et lui-même dit encore, « Quant à moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Tous ceux qui m'ont vu se sont raillés de moi, ils ont ironisé des lèvres, ils ont secoué la tête. Il a espéré dans le Seigneur que le Seigneur le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il tient à lui. Vous voyez, bien-aimés, quel est le modèle qui nous a été donné. Si le Seigneur s'est ainsi humilié, que devons-nous faire, nous qui sommes venus par lui sous le joug de la grâce ?» Donc là, Clément reprend dans son épître, il reprend complètement l'image du serviteur souffrant. Barnabé dit également, « Si le Seigneur a supporté de livrer sa chair à la corruption, c'est pour que nous soyons purifiés par le pardon des péchés, c'est-à-dire par l'aspersion faite avec son sang. Car ce qui dans les Écritures le concerne vise Israël d'une part et nous de l'autre. Voici ce qui est dit, il a été blessé à cause de nos iniquités, maltraité à cause de nos péchés. » Et donc, c'est la citation d'Isaïe 53, 5 à 7. « Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. On l'a emmené comme une brebis pour l'immolation, comme un agneau sans voix devant celui qui le tond. » Et d'ailleurs, je rappelle que ces paroles, nous les reprenons dans l'office de préparation des saints dons, dans l'office de la proscomédie. Irénée, dans le Contre les hérésies, dit, en parlant donc du récit qui concerne l'apôtre Philippe et l'eunuque de la reine d'Éthiopie, « Voilà pourquoi encore Philippe, ayant trouvé l'eunuque de la reine d'Éthiopie, en train de lire ses paroles d'Isaïe, « Comme une brebis, il a été conduit à l'égorgement, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. » dans l'abaissement, son jugement a été consommé, et tous les autres détails que le prophète avait fournis sur sa passion, sur sa venue charnelle, et sur la manière dont il fut outragé par ceux qui ne croyaient pas en lui. Philippe, dis-je, convainquit aisément l'eunuque de croire que Jésus-Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate, et souffrit tout ce qui avait été prédit, tout ce qu'avait prédit le prophète, pardon, était le Fils de Dieu, celui qui donne la vie aux hommes. Dès qu'il l'eut baptisé, il le quitta, car il ne manquait plus rien à cet homme qui avait déjà été instruit par les prophètes. On pourrait citer également donc les témoignages de Justin dans le dialogue avec le rabbin juif Tryphon, où il dit que c'est un Christ souffrant que les Écritures annoncent. Évidemment, mais que ce soit d'une souffrance maudite dans la loi, nous voudrions savoir si tu peux nous le démontrer aussi. Ça, c'est Tryphon qui dit ça. Et Justin répond en citant Isaïe 53,8 « Si le Christ ne devait pas souffrir, lui dis-je, si les prophètes n'avaient pas prédit qu'à cause des iniquités du peuple, il devait être mené à la mort, déshonoré, flagellé, mis au nombre des iniques, comme un mouton conduit à l'égorgement, lui dont le prophète affirme que personne ne peut raconter sa génération, tu aurais bien lieu de t'étonner, mais c'est là ce qui le caractérise et le révèle à tous. Comment ne croirions-nous pas hardiment en lui ? Tous ceux qui ont médité les paroles des prophètes diront que c'est lui, non pas un autre, dès qu'ils entendront dire qu'il a été crucifié. » D'autres témoignages, ceux d'Origène, ceux de Saint Jean Chrysostome, viennent corroborer tout ce qui a été dit à ce propos. La tradition patristique, celle d'Orient comme d'Occident, est absolument unanime sur cette question. Et on pourrait citer aussi Tertullien, Clément d'Alexandrie, à nouveau Jean Chrysostome, Eusèbe de Césarée. Bon, nous ne manquons pas de témoignages. Cyril d'Alexandrie, Cyril de Jérusalem, Jérôme également, Théodore de Cyre, Augustin d'Hippone, Didyme, etc., etc. Donc, nous ne manquons pas de témoignages sur l'identification certaine entre la figure du serviteur souffrant, telle qu'elle figure dans le livre d'Isaïe, et celle du Christ, de telle sorte qu'on peut dire en conclusion que Isaïe a vu le Christ. Et un auteur dont j'ai perdu malheureusement le nom dans cette accumulation de notes de préparation, dit ceci. Que je retrouve. La seconde partie de la prophétie d'Isaïe commence par une prophétie qui met dans la bouche du précurseur, donc j'ai cité tout à l'heure hein, au chapitre 40 les premiers versets, 3 et 4, le sujet de sa prédiction. Elle se termine par la prophétie de la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme la dernière page de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament lui-même, n'a pu aller au-delà. Au milieu, donc 52-13 à 53-12, elle annonce les souffrances et la gloire de Jésus-Christ avec autant de clarté, ce sont les paroles importantes de cet auteur sur lesquelles j'attire votre attention, donc avec autant de clarté que si le prophète avait assisté à sa mort au pied de la croix. C'est extraordinaire ça, hein, ces paroles. et avait été témoin de sa résurrection. C'est des belles paroles et très profondes. Il décrit la mort et la résurrection du Christ comme si c'était des faits accomplis, alors que ça viendra beaucoup plus tard que lui, qui a vécu historiquement 8 siècles avant. Comme si c'était des faits accomplis, et avec la même clarté que saint Paul dans ses épîtres. Enfin, sortant de ce monde, il pénètre dans le ciel comme l'Apocalypse de saint Jean, de sorte que sans sortir des barrières de l'Ancien Testament, il réunit dans sa même personne, là il parle d'Isaïe, l'évangéliste, l'apôtre et l'écrivain apocalyptique. Voilà, sur ces paroles très fortes et très belles, je termine avec ce cours. Merci de votre attention et à la prochaine fois.